Gloire à toi, mon Dieu. Que ton nom soit crié par toute la terre. Qu'il soit sur les lèvres des grands, comme limite à leur puissance. Gloire à toi, mon Dieu. Que ton nom soit sur les lèvres des humbles et des petits, qui n'ont pas le savoir ni la puissance, mais qui te connaissent, toi. Amen. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui viennent régulièrement dans le temple, et puis bonjour à tous ceux qui sont de passage, et puis bonjour à tous ceux qui vont écouter la version enregistrée, puisque tout le monde ne peut pas venir. Je m'appelle Jérôme Denis, je suis un prédicateur laïque de cette église, et le conseil presbytéral, qui fait son week-end de rentrée, m'a demandé de venir présider ce culte, ce que je fais avec plaisir. Nous sommes ici ce matin, dans ce temple, pour partager un moment de prière, de réflexion et de joie, en présence de notre Seigneur. Merci. Merci à Dieu qui nous rassemble et qui est au milieu de nous. Oui, vraiment, il est au milieu de nous. Et nous allons y revenir, parce que c'est le thème de ce culte. Levons-nous pour proclamer la grâce de Dieu. Nous enchaînerons avec le premier spontané que vous trouverez sur la feuille incluse dans les livrets, sous le titre « Temps de Pentecôte et l'Église ». Andrea Chomel sera notre organiste. Je lirai le premier verset, elle continuera par la phrase musicale et tous ensemble, nous enchaînerons. Dieu nous appelle. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Nous te remercions, Seigneur, pour cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute, de louange, un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Nous te louons, tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ, il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour le Saint-Esprit, il nous rassemble malgré nos différences. Et fais de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie et ton règne, et nous chantons sa gloire. Nous chantons le psaume 42, les strophes 1 et 7, comme un cerf altéré brame.
Touche le sang de mes.
sans crainte, Dieu de vie, nous nous présentons devant toi ensemble, nous reconnaissant nos faiblesses, nos limites et nos lenteurs. Nous te demandons pardon pour quelquefois la tristesse de nos cultes et notre manque d'élan. Pardon aussi parfois de te servir avec si peu d'imagination et de parler de toi avec si peu de joie. Oui, pardon, Dieu de vie, nous ne sommes que ce que nous sommes, des femmes et des hommes qui tentent, malgré ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas, de dire et vivre leur foi. De tous mes maux, il me guérit, il parle et je revis. Levons-nous pour recevoir l'annonce du pardon. Tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux, car notre Père vous aime et vous pardonne en Jésus-Christ. Au nom de Dieu notre Père, je vous le déclare ici et maintenant, tout notre péché a été pardonné. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Ô ma joie, mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. Pardonner et libérer, écoutons ce que Dieu nous promet. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau, de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ, qui nous délivre des servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. De ton esprit emplis nos êtres. Je vous invite à la prière avant les lectures bibliques. Nous prions pour ouvrir notre cœur à l'actualité et à l'action de la Bible, de ses mots et de l'Esprit Saint. Nous connaissons certes ce livre, nous en connaissons beaucoup les histoires, mais comme nous sommes surpris de voir à quel point ces paroles nous parlent différemment, en fonction de ce que nous avons vécu, en fonction de notre âge. Et merci pour cette action de l'Esprit Saint. Que ce matin, il soit encore ici parmi nous. Amen. La première lecture est tirée du livre d'Ésaïe. C'est un passage qui se situe après la chute de Babylone. Les Juifs rentrent au pays. C'est une sorte de nouvel exode, mais beaucoup plus joyeux que le premier, puisqu'ils savent où ils vont. Ils vont à Jérusalem. Enfin, ils, leurs descendants, car ça fait 50 ans qu'ils sont partis. Et ils rendent grâce à Dieu pour la liberté retrouvée, les merveilles du monde qui leur sont données. Ésaïe, chapitre 40, versets 26 à 31. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force est si puissante que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu, Jacob? Et pourquoi affirmes-tu, Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. La deuxième lecture est extraite de l'épître de Paul aux Romains. Juste avant le passage choisi, Paul évoque les difficultés de la vie, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, les périls, et toutes choses susceptibles de nous faire douter de la présence et de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Souffle du Dieu vivant. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais alors, pourquoi avons-nous parfois le sentiment que Dieu est absent, qu'il est loin de nous, qu'il nous a laissé tomber? C'est une expérience spirituelle intime que nous sommes nombreux à avoir connue et à connaître peut-être encore aujourd'hui. Et cette expérience n'est uniquement celle des incroyants, mais elle fait aussi partie de l'expérience des croyantes et des croyants. On pourrait s'adresser à un croyant et lui dire, « Toi qui es croyant, tu as de la chance, tu ne peux pas connaître le doute ou les questions. Mais moi, ce que je vis, c'est bien sûr la joie que me procure la présence de Dieu. Mais parfois, je dois bien l'avouer, tout croyant que j'essaye d'être, je ressens le doute et les questions. Je ressens aussi douloureusement l'absence de Dieu, le sentiment qu'il se tient loin de moi. Peut-être même plus douloureusement que celui ou celle qui dit ne pas croire. Celui qui ne croit pas, en toute bonne logique, il n'a rien à attendre. Il n'est pas déçu. Tandis que celui qui croit, quelle est l'étendue de sa déception? Et pourtant, rien ne peut séparer de l'amour de Dieu, nous dit la Bible. Mais la Bible n'est pas qu'un recueil de belles pensées, aussi réconfortantes soient-elles. Car si elle comporte de nombreuses phrases qui soulignent la vie et la foi, la Bible comprend aussi des récits de l'expérience du doute et de l'absence. Oui, l'expérience de l'absence de Dieu fait aussi partie des textes bibliques. Quatre, cette question de l'absence de Dieu n'est nullement une question moderne. Je pense même pouvoir dire que cette question est aussi vieille que la question de Dieu elle-même. Voici des générations que les croyants sont confrontés à cette expérience de l'absence. Et les textes bibliques sont très nombreux à nous transmettre leur expérience et leurs réponses. On ne va pas en faire ici un inventaire, mais souvenez-vous par exemple du livre de Job. On peut dire qu'une bonne moitié du livre est composée de plaintes de Job. À cause de ce qu'il ressent comme un éloignement de Dieu, éloignement qui est la cause de son malheur. Et puis, rappelez-vous les psaumes qui expriment dans des termes parfois vifs la douleur des croyants devant l'absence de Dieu. D'ailleurs, les malheurs qui frappent le croyant sont presque toujours compris comme des signes d'un Dieu qui se retire. Mais là aussi, ce n'est pas ancien. Et nous autres, les modernes, continuons à le croire. Qui d'entre vous n'a pas entendu cela? Si Dieu existait, tel ou tel malheur ne devrait pas arriver. Les psaumes sont remplis de plaintes. Souvenez-vous, il y a le psaume 43 que nous venons de chanter. Tu es seul ma forteresse, comment peux-tu m'oublier? Quand je vois ceux qui me pressent, me cessant de me railler. C'est une douloureuse plainte contre l'absence de Dieu. Et puis le psaume 22, celui que Jésus hurle sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au cœur même de ce qui est le pivot de la foi chrétienne, un cri poussé par Jésus lui-même, un cri qui exprime la conscience d'un Dieu dramatiquement absent. Donc cette question de l'absence de Dieu est prise en compte dans les textes bibliques, mais avec cela, on trouve aussi des tentatives de réponse à cette question de l'absence. Grosso modo, on peut voir trois types. D'une part, on trouve l'idée qui est fermement combattue. On trouve l'idée que l'absence de Dieu implique sa défaite contre les dieux des autres peuples, voire le fait qu'il n'existe pas. C'est un petit peu ce qu'ont vécu les Juifs qui ont été exilés à Babylone. Ils avaient tout fait juste, tout fait juste. Et ils ont été punis, et alors, et ils ont été envoyés dans cet enfer païen. Aussi, on trouve l'idée que l'absence de Dieu signifie que Dieu s'est retiré par colère envers son peuple, comme une forme de punition. Mais cette explication qui existe dans la Bible est aussi virtement contredite par d'autres textes. Enfin, troisièmement, il y a des textes qui proposent une dernière explication, et c'est celle-ci qui va retenir notre attention ce matin. Pour ces auteurs, si nous avons le sentiment que Dieu est absent, Dieu n'en demeure pas pour le moins présent. Mais c'est nous qui ne le voyons plus. Pourquoi? Parce que nous avons une image peut-être erronée de Dieu. Et du coup, nous le cherchons là où il n'est pas. Nous regardons dans une direction, persuadés que Dieu doit s'y trouver, alors qu'il se tient à nos côtés, peut-être derrière nous, ouais, avec nous. Mais nous ne le cherchons pas là où il est. C'est pourquoi les textes bibliques multiplient les histoires où Dieu semble se comporter d'une manière complètement déroutante. Non seulement pour les personnages de son temps, mais aussi un peu pour nous. Et ça culmine avec les récits de Noël. Pensez-vous, qu'est-ce que c'est que ce Jésus qui vient naître dans une étable, dans la banlieue de Bethléem, alors qu'on attendait le roi des Juifs? Un roi, ça naît dans un palais à Jérusalem. C'est pourquoi les textes bibliques nous invitent à convertir notre regard pour le tourner vers Dieu, là où il se trouve présent. Et pour cela, les textes nous invitent à tourner notre regard vers les choses visibles, pour y découvrir la trace de l'invisible. Ce que la Bible nous propose, c'est une sorte d'apprentissage, de lecture de signes. C'est un peu comme apprendre à lire les panneaux du code de la route. Si je n'y connais rien, lorsque je vois une pièce de métal triangulaire avec un liseré rouge et puis une croix au milieu, ça ne me dit rien. Je vois un panneau. Mais si je sais lire les signes, alors je comprends que dans un moment, j'arriverai vers un carrefour. Alors il faut que je commence à ralentir pour passer ce carrefour sans accident. D'autant plus que la priorité est à droite. Mais apprendre à lire ce panneau, ce n'est pas seulement comprendre ce que chaque panneau veut dire, c'est aussi intégrer que l'ensemble des panneaux renvoie à un univers de valeurs et de vivre ensemble. Apprendre à lire les signes, c'est passer de l'immédiat au non-immédiat, du visible à l'invisible. Au moment où je vois mon panneau triangulaire, je ne vois pas encore le carrefour, et encore moins les autres véhicules qui peut-être s'en approchent, et avec lesquels il va falloir faire avec, pour passer sans encombre. Le panneau me fait signe de sa présence et rend présent des choses qui ne sont pas visibles, ou pas encore. Je ne vois pas encore le carrefour quand je vois le panneau qui me l'annonce. Mais le fait de savoir lire ce panneau fait que je sais que le carrefour est là, devant moi, que sa présence, même invisible à mes yeux, va rendre nécessaire que j'adapte ma conduite. Bon, tout d'accord, ça peut être un peu compliqué, et pardon si je vous embrouille, mais vous avez toujours la ressource, rentrez chez vous, de reprendre la prédication qui sera sur le site de la paroisse, puisqu'elle est enregistrée. Mais revenons à nos textes du jour. Parce que ce que je viens de vous décrire, c'est exactement ce qui se passe dans le livre du prophète Ésaïe que nous avons entendu tout à l'heure. Pour les anciens, dont le prophète Ésaïe fait partie, La fascination devant l'univers, sa beauté, sa puissance, est un moyen d'ouvrir les yeux pour retrouver Dieu présent. Il voyait dans le spectacle de la nature autant de signes de la présence de Dieu. Plus précisément, Ésaïe constate la permanence extraordinaire de la vie, qui ne cesse de se maintenir malgré les menaces, le chaos, la mort. Et c'est dans cette permanence qu'il nous invite à découvrir la présence de Dieu à nos côtés. Certes, le raisonnement du prophète est un peu moins convaincant aujourd'hui à cause des progrès de la science. Nos connaissances scientifiques nous fournissent des explications rationnelles sur le cycle des planètes, le cycle de vie, où Dieu n'a plus sa place. Encore que, j'en suis certain, le spectacle de la vie qui veut vivre demeure un signe pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, des médecins vous le diront, il est plus facile de soigner un patient qui se bat contre la maladie que celui qui se laisse aller. Un détail encore. Du temps du prophète Ésaïe, c'était la force qui était recherchée contre la fatigue et le découragement. La force qui permet la vie et qui se poursuit dans la vie. Pour Paul, par contre, c'est l'amour. C'est l'amour qui est au cœur de la recherche de Dieu. Mais nous n'allons pas opposer l'amour et la force. Les deux sont liés. L'amour est une force et la force s'enracine dans l'amour. Pour Paul, ouvrir les yeux sur la présence de Dieu à nos côtés, c'est regarder les traces d'amour autour de nous. Dans le confinement que nous venons vivre et qui pourrait bien reprendre, nous avons été témoins de nombreuses traces d'amour et de solidarité. Certains font les courses pour les aînés de leurs immeubles. Des entraides pour garder les enfants se mettent en place. Et dans les paroisses, on découvre une créativité merveilleuse pour garder le lien, proposer des temps de prière et de réflexion. Peut-être en avez-vous été bénéficiaire. Peut-être en avez-vous été acteur. Chacun de ces gestes est un signe de la présence agissante de Dieu. Quand vous en êtes bénéficiaire, vous êtes bénéficiaire de l'amour de Dieu. Quand vous êtes acteur, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en vous. Mais ouvrons encore les yeux. Ce rassemblement, ici, cet automne, d'hommes et de femmes qui prient, qui chantent, qui écoutent, qui méditent dans le temple d'Annecy, et aussi ceux qui écoutent l'enregistrement, c'est bien un signe de la présence agissante de Dieu. Ouvrons les yeux et rendons grâce. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Thank you. Nous nous levons pour chanter le cantique 37-01. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure. Et puis nous resterons debout pour la confession de foi. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Il s'agit de la confession numéro 2 qui est dans ce recueil. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Mon seul abri, c'est toi. C'est le moment des offrandes. Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Père, accepte notre offrande, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Moment des annonces.
D'abord, merci à Jérôme Denis qui préside de ce culte. Merci à John et Pierre pour l'accueil et à Andrea pour la musique. Aujourd'hui, le conseil presbytéral est organisé pour une journée Bible et marche. Alors, ça devait être une marche à l'extérieur, mais en fait, ils se sont repliés chez David Coquelin, vu la météo. Mercredi soir à 18h, le groupe prière. Samedi, conseil du consistoire à 9h à la paroisse de Fermier-Voltaire. Dimanche prochain, le culte est à 10h. C'est Charlotte qui présidera le culte. Elle présidera le culte à Bellegarde, paroisse Saint-Pasteur. Et pour la semaine suivante, mercredi 7 à 19h, il y aura la projection du film choisi par le jury œcuménique au cinéma Le Nemours à 19h. Ce film s'appelle Maternal, il est de Maura Del Perro et il sera suivi d'un débat. Dimanche 11 octobre, ce sera la fête d'automne musicale et le culte d'offrande d'automne. Et puis, je voulais de la part de Jean-Michel, qui est sauveteur secouriste du travail, faire une annonce courte de la part de Pierre Marchal, qui est président de l'association Grégory Marchal. Grégory est quelque part, il est près de nous, je continue, tu seras toujours vivant dans mon cœur. On ne veut vraiment pas pleurer, Grégory est là, il est bien là. Dites-le, dites de ne jamais baisser les bras. Il est tout là-haut et il nous voit dans le ciel.
Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Dieu, Père de tous les vivants et notre Père. Nous te louons de nous rappeler que nous n'en sommes pas la fin ni la source de nos propres vies. Si nous vivons, c'est grâce à d'autres qui nous ont permis de naître et de grandir. Et c'est pour être à notre tour témoins et artisans de vie. Nous te prions pour les enfants, d'ici et d'ailleurs, en manque de soins et de tendresse, qui commencent leur vie dans le silence ou dans les cris. Nous te prions pour les aînés, d'ici et d'ailleurs, en manque de soins et de tendresse, et qui terminent leur vie dans la souffrance et dans l'oubli. Nous te prions pour les hommes et les femmes, d'ici et d'ailleurs, en manque de travail et de reconnaissance. Nous te prions aussi pour ces hommes et ces femmes, et même ces enfants, en manque de pain et de sécurité, contraints de quitter leur terre dans l'espoir de trouver ailleurs un refuge et un possible avenir. Donne-leur de rencontrer des visages accueillants, des mains tendues, des regards attentifs. Donne-nous d'être à titre personnel, tout comme communauté et aussi comme nation, d'être confiant et disponible. Et puis aussi, nous te prions pour tous ces gens de bonne volonté qui, au milieu des violences et du chaos, s'efforcent de témoigner d'un lieu de paix et de miséricorde. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre frère en humanité, que leur vie soit empreinte de bienveillance. Toi qui fais lever le soleil pour les mauvais comme pour les bons, et fais descendre la pluie sur les labours des justes et des autres aussi. Ouvre à présent nos lèvres, pour qu'avec tous les chrétiens de toutes langues et de toutes origines, nous redisions d'un même cœur la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jésus nous dit, le ciel et la terre disparaîtront, tandis que ma parole et les promesses qu'elles contiennent ne disparaîtront jamais. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Amen. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Bon dimanche à tous.
Merci beaucoup, c'était vraiment, j'ai vraiment bien aimé.
Tant mieux.
Là, tout ce que tu as dit au sujet de l'absence de Dieu, de l'absence de perception, la conversion du regard, le lien entre l'amour et la force, puis vraiment une très belle prière d'intercession, vraiment bien en rapport avec l'actualité. Bon dimanche.
Merci, toi aussi.
Signes.